Quel Dieu de grâce que nous avons, un Dieu rempli de compassion, qui nous a accordé son plein pardon et une merveilleuse espérance. C'est pas merveilleux, ça? On va prier et après, je vous invite à faire la lecture d'un texte qui est bien connu dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Seigneur Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu nous accordes dans la vie de tous les jours. Merci parce que nous sommes tes brebis, nous t'appartenons et tu veilles sur nous. Tu nous conduis, tu nous guériges, tu nous protèges, tu panses nos plaies, tu restaures notre âme. Et Seigneur, tu nous donnes aussi de la pâture. Et ta parole, Seigneur, est cette nourriture dont notre âme a besoin. Alors, Seigneur, nous voulons te demander que ta parole, ce matin, nourrisse nos âmes et que nous puissions franchir un pas supplémentaire avec toi, dans notre relation avec toi, dans notre progression avec toi. Nous te demandons vraiment de nous diriger et d'interpeller nos consciences ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire un texte, donc, comme je le disais, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, les 11 premiers versets, un passage que nous connaissons, puisque il s'agit de la femme adultère. Et ils chacun s'en alla dans sa maison. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. La place au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu, verset 10. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Alors, quelques mots concernant le contexte de notre passage. La fin du chapitre 7 se termine par une controverse assez vive parmi les membres du Sanhédrin au sujet de Jésus qu'ils veulent faire mourir, mais son temps, l'heure n'est pas encore venue. Alors, après cette discussion, après ces débats intenses, musclés, chacun rentre chez lui, dans sa maison, et Jésus, comme le souligne par ailleurs l'évangéliste Luc au chapitre 9 de l'évangile et au verset 58, qui n'a nul endroit où reposer sa tête, lui s'en va sur le mont des Oliviers, et là il va passer la nuit. Et c'est donc dans ce contexte-là que s'affiche la lecture que nous avons lue. Jésus passe la nuit sur le mont des Oliviers, où il s'était souvent rendu avec ses disciples. C'est sur le mont des Oliviers où Jésus, par ailleurs, trahi par Judas, a été arrêté, puis jugé, puis condamné, puis crucifié. C'est aussi sur le mont des Oliviers que Jésus est retourné au ciel lors de l'ascension. Et c'est encore sur ce même mont des Oliviers que Jésus, selon le prophète Zacharie, chapitre 14, verset 4, remettra les pieds lorsqu'il reviendra pour régner. Le mont des Oliviers, c'est en fait une colline qui est d'une altitude d'à peu près 800 mètres, située à l'est de Jérusalem, et séparée d'avec la ville par la vallée du Cédron. Et donc, dès le matin, le texte nous dit que Jésus, malgré l'hostilité des pharisiens, malgré l'hostilité des scribes, va se rendre dans le temple et va enseigner la foule, alors qu'il se trouve assis dans les parvis du temple. Et c'est pendant qu'il enseigne que ces derniers, les pharisiens, les membres du Sanhédrin, du tribunal religieux, vont amener une femme vers Jésus, au nom pas qu'ils se préoccupent du verdict que va connaître cette pécheresse, mais ils sont motivés par la seule et unique chose, à savoir celle de tendre un piège à Jésus à travers cette question que nous avons lue. Faut-il ou pas appliquer la loi de Moïse envers cette femme? Ils sont donc motivés. Ils partent d'une très mauvaise intention, puisque ils sont motivés d'aller au temple pour rencontrer Jésus en vue de lui tendre un piège, en lui posant cette question qui est d'une habileté déconcertante finalement. Alors, la question vise à montrer l'incompatibilité qu'il y a d'une part entre la loi de Moïse et d'autre part entre la loi de la grâce et la vérité révélée par Jésus. On trouve ça dans Jean au chapitre 1er, verset 17. Et puis, on peut dire d'une manière générale que la loi de Moïse envisage la sanction, tandis que la loi de la grâce de Jésus envisage le pardon. Alors les pharisiens ont très bien préparé leur coup. Et dans sa réponse, eh bien, Jésus devra éviter de tomber dans trois pièges. Le premier piège est le suivant. Si Jésus répond favorablement à l'application de la loi, s'il dit effectivement qu'il faut condamner cette femme pour qu'elle meure par lapidation, alors, c'est toute sa prédication, c'est tout le message, tout l'enseignement de grâce qu'il dispense aux foules qui va être remis en cause. Par contre, et c'est le deuxième point, si Jésus refuse l'accomplissement de la loi envers cette femme, eh bien, cela signifierait que il s'oppose à la loi. Cela signifierait que Moïse parle contre la loi, qu'il refuse l'application de la loi, de se soumettre finalement au verdict que prescrit la loi. Donc on voit le labyrinthe de la situation, la complexité de la situation dans laquelle Jésus se trouve. Et puis il y a un troisième piège dans lequel Jésus doit éviter de tomber. Et ce troisième piège dans lequel Jésus doit éviter de tomber, à travers cette question posée par les pharisiens, c'est qu'il donne une version incomplète, incorrecte, erronée de la loi. Lorsqu'ils disent « Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. » Et là, ici, à ce niveau-là, ils ont enlevé un élément important de la loi de Moïse. Et ils espèrent que Jésus ne le verra pas. Mais Lévitique, chapitre 20, verset 10, met en lumière leur omission. Parce que la loi, que dit-elle exactement concernant l'adultère? Eh bien, elle dit ceci: si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. C'est-à-dire, aussi bien la femme que son complice, ou aussi bien l'homme que sa complice. Tous les deux ont péché, tous les deux doivent subir la sanction. Or, dans Jean chapitre 8, verset 5, seule la femme est accusée. Et où est donc l'homme? Alors si Jésus cautionne malgré tout la lapidation, l'application de la loi de Moïse à l'encontre de cette femme, non seulement son message de grâce, de pardon, va être discrédité, mais en outre, il irait à l'encontre du prescrit de la loi. Il violerait la loi. Il ne respecterait pas la loi dans son entièreté. Donc, on voit vraiment que c'est un plan pernicieux qui a été élaboré par les pharisiens. Et pourquoi ont-ils élaboré ce plan aussi pernicieux? Mais la réponse se trouve au verset 6 que nous avons lu, afin de pouvoir l'accuser, afin de pouvoir accuser Jésus. Mais Jésus connaît leur malice, il va s'accroupir comme s'il était lassé de leur fourberie. Et puis il va commencer à écrire avec son doigt sur le sol, par terre. Alors, que n'a-t-on pas imaginé au sujet de ce que Jésus pouvait avoir écrit sur le sol? Certains ont pensé qu'il écrivait le mot pardon. D'autres ont pensé qu'il pouvait écrire le mot compassion, bien charité, bien amour. Ça restera une énigme. On ne le saura pas. Et d'autres ont vu, à travers ce geste fait par Jésus, un parallèle entre le doigt de Dieu sur le Sinaï qui avait gravé sur la pierre sa loi, et le doigt de Jésus qui a inscrit la loi de la grâce et du pardon sur le sol. Mais ça ne reste que de la spéculation, on n'en sait rien. Alors après un moment, Jésus se lève et il leur envoie une simple mais une puissante réplique qui, telle une flèche, va leur transpercer la conscience et les mettre en déroute. Au verset 7, Jésus dit que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Alors devant la clairvoyance et devant la force d'esprit de Jésus, les pharisiens sont désarmés. Ils sont déroutés. Ils comprennent que Jésus a déjoué leur subterfuge machiavélique. Dans sa réponse, Jésus fait référence à la fois à leur vie passée, comme le propose la version du semeur, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, des péchés certainement qu'ils en ont commis, peut-être même ont-ils commis le péché d'adultère, ne fût-ce que à travers la convoitise. Mais Jésus fait aussi référence dans sa réflexion, dans sa réponse, à leur vie présente, au moment présent, à l'instant présent. Et ça, d'autres versions ont traduit par la réponse de Jésus au présent, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et Jésus veut leur montrer par là que, eh bien, eux aussi, dans cette affaire, ils sont pécheurs. Eux aussi, à travers l'épisode qu'ils vivent, ils sont pécheurs. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Pourquoi est-ce qu'ils sont pécheurs dans cette affaire? Sur le moment même, au moment présent, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont voulu tromper Jésus. Et en voulant tromper Jésus, ils ont aussi transgressé la loi. Pourquoi? Parce que Lévitique, chapitre 25, verset 17, nous dit ceci: « Aucun de vous ne trompera son prochain. » Et c'est ce qu'ils viennent d'essayer de faire envers Jésus. Ils lui ont tendu un piège en espérant qu'il tombe dedans. Ils ont donc aussi, au moment présent, au moment même où ils apportent cette femme pour demander à Jésus s'ils doivent la lapider ou pas, transgresser la loi eux-mêmes. Donc ils sont dans une situation de péché eux-mêmes. Et Jésus veut leur démontrer par là que eux aussi en tant que pécheurs, eh bien, méritent également de mourir. Méritent également finalement d'être lapidés. Et c'est comme la parole de Dieu le souligne, hein. L'âme qui pêche est celle qui mourra, Ézéchiel 18, verset 20. Le salaire du péché, comme Gino l'a rappelé à travers l'introduction à la Sainte-Seine, le salaire du péché, la rétribution du péché, ce que mérite le péché, eh bien, c'est la mort. Ou encore, ce verset de Romains 5, verset 12, par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort répandue sur tous, sur tous les hommes, s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Péché, le péché, les péchés, la pratique du péché, quel qu'il soit, a pour conséquence, eh bien, la mort. En fait, Jésus leur rappelle que tout péché conduit à la mort. Les pharisiens méritaient d'être lapidés. Tout comme la femme pécheresse, et tout comme nous-mêmes, à cause de nos péchés, nous méritions aussi la mort. Mais Jésus apparut pour ôter les péchés. 1 Jean 3, verset 5. Enfin, à la fin du récit, Jésus demande à la femme, « Où sont tes accusateurs ? Et qui t'a condamné ?» Et elle répond, « Personne, Seigneur. » Et Jésus, discernant sa future repentance, lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ben ne pêche plus. » Alors, après ce bref tableau brossé, j'aimerais tirer trois applications que j'ai relevées à travers cette lecture, à travers cette réflexion. Et la première application que nous rappelle ce texte, c'est qu'il ne nous faut jamais juger, condamner, critiquer un frère ou une sœur qui demeure ou qui retombe dans un péché. Il ne nous faut jamais juger ou condamner ou critiquer un frère ou une sœur qui tombe dans un péché, quel qu'il soit. Il ne nous faut pas jouer au gendarme spirituel en pointant du doigt la vie de péché de quelqu'un tout en oubliant les nôtres. Ce sont, comme nous le montre le texte que nous avons lu, les pharisiens qui jugent. Ce sont les pharisiens qui condamnent. Et c'est le diable qui accuse. Il est appelé par ailleurs l'accusateur des frères. Jésus souligne cela dans d'autres versets, Matthieu 7, verset 1, par exemple. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Et un peu plus loin, au verset 3, il écrit ce passage qu'on connaît bien, qu'on connaît tous bien. Pourquoi considères-tu, pourquoi vois-tu la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, alors que dans ton œil, il y a une poutre? Tu regardes le petit détail qui ne va pas chez ton frère, mais regarde chez toi tout ce qui ne va pas, et tu oses regarder et condamner et juger ce qu'il y a chez ton frère. Le jugement, l'accusation, la critique, ça ne vient pas du Saint-Esprit. C'est le fruit d'un manque de compassion, d'un manque de charité, d'un manque de miséricorde, et c'est le résultat de l'amertume. Il ne nous faut pas juger. Attention, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas invités à reprendre nos frères et sœurs. La parole de Dieu nous encourage à reprendre nos frères et sœurs qui commettent un écart. Mais pour cela, il faut avoir au préalable, il faut tout d'abord être dans une bonne relation avec Dieu, en règle avec lui, en ordre avec lui, dans une intimité profonde avec lui. Et il faut avoir aussi au préalable, enlever cette poutre qui se trouve dans notre œil avant de pouvoir envisager avec charité et douceur de l'aider à enlever la paille qu'il y a dans son œil. C'est tout un processus de charité et d'amour. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'écrit, lorsqu'il écrit à Timothée au chapitre 2, verset 4, chapitre 4, verset 2, il dit ceci, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur. Et l'Ancien Testament nous encourage, nous invite aussi à reprendre un frère s'il le faut. Tu ne donc Lévitique. J'ai pas noté la référence. Je crois que c'est Lévitique, mais je ne sais plus, je me souviens plus de la référence. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Donc, la parole de Dieu nous invite à ne pas juger, mais cela n'exclut pas que si nous sommes dans une bonne condition spirituelle, d'éventuellement reprendre l'un ou l'autre frère qui commettrait quelque écart. Alors, la deuxième chose que notre texte met en évidence, à côté du fait de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas critiquer notre frère ou notre sœur, eh bien, c'est la bonne nouvelle dont bénéficie cette pécheresse. Deuxième élément qui ressort du texte que nous avons lu. Comme nous l'avons mentionné, les pharisiens, les scribes, se permettaient de juger et de condamner. Alors que Jésus lui-même, qui est revêtu de l'autorité divine, se gardait de juger. D'ailleurs, l'évangile de Jean au chapitre 12, verset 14, nous rappelle que Jésus est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Le jugement, il aura lieu, mais plus tard, à la fin du temps de la grâce, à la fin de la dispensation de la grâce. Mais Jésus est venu sur la terre, non pour juger. Et nous nous porterions en juge. Et il dit encore en Matthieu 9, verset 13, « Allez, apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et la miséricorde et le salut, Jésus les a manifestés à l'égard de cette pauvre pécheresse. La bonne nouvelle, elle se trouve au verset 11 que nous avons lu, où la grâce jaillit finalement des lèvres de Jésus lorsqu'il dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. » Et c'est ô combien réconfortant et sécurisant finalement pour nous de savoir que si nous avons péché, mais que nous nous sommes repentis de nos fautes, Jésus nous dit aussi qu'il ne nous condamne pas. Je ne te condamne pas. Jésus ne nous condamne pas malgré les accusations de notre conscience, malgré les accusations des autres, malgré les accusations du diable, et quels que soient nos péchés, Jésus nous dit « Je ne te condamne pas ». Et nous pouvons affirmer ces belles paroles du prophète Michée, chapitre 7, verset 18, qui nous dit « Qui est le Dieu semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Car il prend plaisir à la miséricorde. Mais quel Dieu de grâce ! Moi non plus. Je ne te condamne pas. Troisième élément qui ressort du texte que nous avons lu, troisième application que nous pouvons faire ressortir de cette lecture, eh bien, c'est qu'il semble important de souligner que il ne faut pas, Jésus ne distribue pas sa grâce pour qu'on la méprise. Jésus ne dit pas que c'est rien du tout de commettre un adultère. Au contraire. Il rappelle à cette, il appelle cette femme à renoncer à ce chemin de mort. Jésus lui demande, lui enjoint même de ne plus transgresser la loi. Il lui dit, je ne te condamne pas, mais il ajoute tout de suite après, va et désormais, bien ne pêche plus. va et désormais, mais ne pêche plus. Alors Jésus ne demande pas à cette femme de devenir infaillible ou de devenir immaculée. Ça, il sait bien qu'il connaît la nature humaine, il sait bien que c'est quelque chose d'impossible, comme l'apôtre Jean le dit d'ailleurs dans sa première épître au chapitre 1er verset 8, hein, il le dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, mais nous nous séduisons nous-mêmes et nous ne sommes pas dans la vérité. Jésus ne lui demande pas d'être irréprochable. Il sait que c'est... Mais il lui demande de changer d'orientation. Il lui demande de changer de mentalité. Il lui demande de changer de mode de vie. Il lui demande d'abandonner sa vie de pécheresse, d'adultère et de commencer une vie nouvelle en fonction d'un nouveau mode de vie. Il lui demande d'abandonner sa vie charnelle pour mener une vie plus spirituelle. Voilà ce que Jésus demande à cette femme. Finalement, c'est quoi? Bah, c'est la repentance qui est prêchée par tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est encore cette même repentance qui est prêchée par Jean-Baptiste, qui est prêchée par Jésus, qui sera prêchée par l'apôtre Paul. Le demi-tour. La repentance, la confession de nos fautes, l'abandon de cette faute, et puis la marche en nouveauté de vie. Conclusion. Peut-être que ce matin, on a la conscience chargée par l'une ou l'autre faute qui nous tient, qui nous lie. Peut-être par plusieurs péchés. Confessons nos travers et abandonnons-le. Abandonnons-les. Confessons nos travers. Jésus qui a manifesté sa grâce et sa compassion à l'égard de cette femme adultère est le même aujourd'hui. Et il veut aussi nous accorder, nous placer au bénéfice de cette même grâce qu'a bénéficié cette femme adultère. Il veut nous accorder son pardon. Il veut nous accorder son plein pardon. Et il nous dit aussi à nous aujourd'hui, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Que le Seigneur nous aide à considérer toute la dimension de sa grâce, mais aussi toute l'implication qu'elle comporte. Cette marche en nouveauté de vie.